Louis Pergaud, le roman de Miro, Chien de chasse, partie 1, chapitre 3. Crois-tu, confia la guelotte à sa voisine, la grande Phémie, dès que Lisée, Miro et Philomène furent partis, crois-tu que mon grand ivrogne m'a encore ramené une viosse à la maison? Y a bien pitié à toi, concéda l'autre, qui n'aimait guère que ses poules. Si encore on avait le moyen. Mais nous avons déjà tant de maux de nouer les deux bouts. D'où Jésus, ah bon Dieu de bon Dieu. Et il va rechasser, reprendre des permis, des actions, dépenser des sous, acheter de la poudre, du plomb, des fournitures de toutes sortes, et se faire repincer quand la chasse sera fermée, parce que je le connais, ce grand mandrin-là. Il ne pourra pas se retenir de braconner. La grande Phémie, qui était vieille fille, et selon toute présomption vierge et martyre, comme disait Philomène, balança son goître, tel un canard son jabot gonflé de pâté. Puis, secouant sa petite tête d'oiseau, émit cet aphorisme de laide que les événements ne lui avaient sans nul doute jamais permis de vérifier expérimentalement. Les hommes, c'est tous des cochons. Ensuite de quoi, elle songea à ses chères Gélines et émit, au sujet de leur sécurité future, quelques craintes inspirées par l'annonce du voisinage de ce jeune et dangereux carnassier. Les petits chiens, ça mord tout, ça bouffe tout. J'ai bien peur que ta sale mûrie ne s'en vienne rôder autour de ma porte, épouvanter mes poules, les empêcher d'ouver, les faire se sauver ailleurs et me les saigner. Tu sais bien, le Turc du Vernois, chaque fois qu'il passe au pays, il fait le tour des écuries et il nettoie tous les nids. Il s'en paye des omelettes. Pourvu que le sien ne s'y mette pas, espéra la guelotte, qui voyait les nuages noirs s'accumuler sur sa maison. Ah, les jeunes chiens, tu sais, renchérit la vieille, il faut faire bien attention à eux et ne pas les manquer. Si tu vois le tien fouiner vers tes nids, fous-lui des coups de trique, autrement c'est fichu. Ah, ton homme aurait bien mieux fait de ne pas se saouler hier et de te ramener un petit cochon. Lasse-moi, se lamenta la guelotte, accablée. Et s'il se met à les manger, les poules, ou à saigner les lapins, ou à courser les moutons? Le si beau du maître d'école, celui qui l'a vendu à des messieurs de Besançon, lui en a fait payer pour plus de 100 francs dans une année. On a beau avoir des sous, toucher des mandats du gouvernement et faire les écritures de la mairie, il y a bien fallu qu'il s'en débarrasse de sa sale rosse. Sans quoi, les gens allaient faire des pétitions et le dénoncer tous les 15 jours jusqu'à ce qu'on lui foute son changement. La guelotte blêmissait. La perspective de toutes ces histoires, cette évocation des malheurs futurs, poussée au noir encore par la méchanceté de la Phémie, la révoltait contre ce qu'elle appelait la bêtise et l'égoïsme de son homme. Pour son plaisir, rageait-elle, pour son seul plaisir, dans quelle position va-t-il nous mettre? Et dire qu'il ne m'a même pas demandé avis. Je suis donc la dernière des dernières. Ah, la grande vache, la grande fripouille. Mais ils n'ont pas fini, son Salazar et lui. Je te leur en foutrai des soupes claires et des pommes de terre cuites à l'eau. Et s'ils deviennent gras, ce ne sera pas de ma faute. Tu devrais tâcher de lui faire crever sa rosse, insista la vieille teigne. C'est bien facile. Je vais te dire comment on s'y prend. Tu n'auras qu'à lui donner une éponge grillée dans du beurre ou dans du sein doux. Une fois frit, cela se réduit à presque rien. Comme cela sent bon la graisse, ces voraces-là te bouffent ça d'une seule goulée, sans se douter de rien. Mets l'eau de leur estomac, fais regonfler la machine. Au bout de quelque temps, ça tient toute la place. Ça ne peut plus passer, ni d'un côté ni de l'autre. Et ils crèvent étouffés, les sales goulus. Et va-t'en chercher de quoi le médor est claqué, et courir après celui qui a fait le coup. La guelotte réfléchissait. Oui, évidemment. Le moyen proposé était excellent pour se débarrasser de cet hôte encombrant. Mais il n'était pas sans danger, quoi qu'en dit la Phénie. Lisée aimait ses chiens. dans sa longue carrière de chasseur, il en avait vu de toutes sortes et de toutes couleurs. Il en avait eu un, il y a bien longtemps de ça, mangé du loup, et un autre décousu par un sanglier. Un troisième qui s'était tué en poursuivant un lièvre qu'il serrait de trop près. Tous deux, le capucin le premier et le chien immédiatement derrière, avaient sauté dans une sorte de précipice et le chasseur avait dû descendre au moyen de cordes pour remonter les deux cadavres. Il en avait eu un qui avait suivi une chasse au tonnerre de Dieu et qu'on n'avait jamais revu. Perdu, tué, volé, nul ne savait. Lisée avait eu bien du chagrin chaque fois qu'un tel malheur lui était advenu. Il avait même pleuré sur quelques-uns de ses braves toutous, qui étaient de francs et joyeux compagnons. Et quand il avait pu, il les avait toujours, avec une sorte de piété amicale, enterrés dans un petit coin de son verger, où l'herbe poussait à chaque printemps plus verte et plus drue. Mais jamais, non jamais, il n'avait été aussi furieux que le jour où son vieux Finot s'en vint râler à ses pieds, empoisonné. Ah oui, ce n'était pas oublié. Maintenant encore, quand on évoquait la chose, ses veines du front se tendaient ainsi que des câbles et ses poings serrés s'arrondissaient comme des maillets, prêts à cogner. Quant à la canaille qui lui avait lâchement assassiné son chien, il avait bien fallu qu'il la découvrît. Après une enquête aussi minutieuse que lente et discrète, d'insidieuses questions aux pharmaciens et aux bouchers, des observations sans nombre, il avait réuni un irréfutable faisceau de preuves contre le bandit, la crapule qui tuait les bêtes en leur donnant à manger, le lâche hypocrite qui n'osait pas l'attaquer en face. Il avait longtemps attendu son heure, différant la vengeance, jusqu'au moment où l'affaire serait presque oubliée et où l'autre n'y penserait plus. Et puis, un beau soir, que son empoisonneur était parti en course au village voisin, Lisée, sans être vue, était venue s'apposter pour l'attendre au coin du bois du Teuré. Quand il arriva, le chasseur l'aborda carrément sur la route, se nomma « C'est moi, Lisée ». Puis lui rappela les faits, lui fournit les preuves, le traita d'assassin et de lâche, et après l'avoir largement souffleté, le colleta. Et alors, la colère, comme un torrent trop longtemps endigué, remontant du plus profond de son cœur, il avait administré au chenapan une de ses tournées fantastiques, une de ses volées de coups de pied et de coups de trique si terribles que l'autre, cabossé, meurtri, talé, éborgné, on avait été plus de 15 jours avant d'oser sortir et ne s'était jamais vanté de la chose. Mais pas un chien n'avait péri depuis au village. La leçon avait profité. Empoisonner Miro ? Lisée n'aurait ni trêve ni repos avant d'avoir découvert l'assassin. C'était courir un trop gros risque, se vouer à une existence plus infernale encore, car alors, nulle journée ne se passerait sans insultes, ni gifles, ni coups de pied quelque part. Et puis, on a beau ne pas aimer les bêtes, ce n'est pas drôle tout de même, pensait la guélotte, de les voir devant vous se tordre et se retordre, ne hurler que lorsque la douleur leur tord les boyaux, et vous bourrer des yeux à vous tourner les sangs et à vous décrocher les foies. Ah, le vieux Finot. Il était rentré, plein comme un boudin, après une tournée apparemment fructueuse dans le village. Même que ça ne sentait pas la rose quand il se lâchait, et on l'avait fourré tout de suite à l'écurie, où il passerait en paix sa nuit de digestion. « Il s'est nourri, » disait en riant Lisée. « Sûrement qu'il aura dû bouffer quelques mondures de vache ou quelques ventrailles de mouton. » Mais le lendemain, quand le chasseur s'en était allé à l'écurie pour délier les bêtes et les conduire à l'abreuvoir, ça avait été une autre histoire. Le chien qui souffrait déjà, mais se taisait stoïquement, avait voulu aller à lui et comme d'habitude lui dire bonjour en se dressant contre ses genoux pour le lécher et japoter. Il avait à peine pu se lever sur ses pattes de devant. Le train de derrière paralysé refusait déjà tout service. Les jambes étaient raides. Alors, la bête, étonnée, furieuse et désespérée, avait hurlé un long coup de souffrance et de rage. Élisée, affolée, abandonnant les vaches, avait pris son chien dans ses bras, l'avait transporté dans la chambre du poêle et déposé sur un coussin auprès du feu. Là, il l'avait examiné, lui avait ouvert la gueule, soulevé la paupière, regardé l'œil qui était encore assez clair. Il avait vu tout de suite. « Crénom de Dieu, mon chien est empoisonné. Va vite traire les vaches que je lui fasse prendre du lait. » Finot avait difficilement avalé le lait. Contrepoison trop peu énergique. Puis il était retombé dans son abattement douloureux. Son poil se hérissait. Ses yeux s'injectaient de sang, se troublaient. Il haletait de fièvre et tremblait de froid. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger, bon Dieu, rageait Lisée. Si je le savais seulement. Et Philomène était venue. Faut le faire dégueuler, avait-il ordonné. Je vais chercher de l'huile de ricin. On les sauve souvent avec, et j'en ai toujours à la maison. Lisée avait desserré les mâchoires déjà raides de son vieux chien, pendant que son ami, avec des précautions fraternelles, ingurgitait au patient un grand demi-verre du visqueux breuvage. Sans doute il était trop tard. Le poison, de la strychnine probablement, avalé dans un morceau de viande, n'avait produit son effet que tard, lorsque la digestion était déjà en train. Il aurait fallu être là alors, se douter et s'y prendre immédiatement. Mais le pouvait-on ? Il était probable que cela avait dû débuter par de fortes coliques, et un chien ne se plaint pas de coliques. Toute souffrance qui n'a pas une cause directe et visible le laisse étonné et muet. Il fallait vraiment que les douleurs devinssent atroces pour que la bête hurlât par intervalles. Car les crises, comme tétaniques, de raidissement étaient, après l'absorption de l'huile, devenues plus rares. Et l'œil semblait aussi s'être éclairci. Finot s'était même levé tout seul, et il avait tenté de remuer la queue en regardant son maître. Mais il se recoucha aussitôt, tandis que Philomène, Élisée et les amis qui étaient venus faisaient gravement cercle autour de lui. Il faut avoir vu ses fronts plissés, ses yeux inquiets, ses grosses mains tremblantes, pour comprendre tout ce qui peut, malgré la rudesse apparente ou réelle, fermenté de bon levain sous ses écorces tannées et dans ses cœurs frustes de paysans. Lorsque reparurent les crises et que le chien en se raidissant se prit à hurler, leurs yeux devinrent humides, brillants. L'on sentait en eux de la douleur et de la colère, et plus d'un qui n'osait se moucher, de crainte de paraître bête, avala silencieusement une larme en mordant sa moustache. Quand, après 12 heures atroces d'agonie, le vieux Finot, vers 6 heures du soir, trépassa dans une crise terrible, ils partirent tous, l'un après l'autre, sans rien dire, les épaules voûtées et le dos rond, tout bêtes de cette douleur contre laquelle rien ne les avait cuirassés. Tandis que Lisée, sur son canapé, la tête dans les mains, pleurait silencieusement son chien. Ah, que non! La guélotte ne voulait plus de ces scènes-là chez elle. Sans compter qu'un chien de chasse, ça vaut des sous, surtout quand c'est dressé. Non, ce qu'il fallait faire, c'était simplement harceler sans trêve les deux êtres, les deux alliés, ses deux ennemis, son mari et le chien. Les faire souffrir l'un par l'autre, chercher si possible à les amener à se détester. Mettre Lisée en colère contre Miro, ou profiter d'une de ces rages que provoquerait sûrement le dressage pour exaspérer son homme, le dégoûter de sa rosse et la lui faire tuer ou donner ou vendre encore, ce qui serait tout profit pour le ménage. Oh, elle trouverait bien. D'abord, elle allait dorénavant laisser les ordures en place. Le patron les enlèverait lui-même si ça lui disait. Quant à la soupe, elle serait maigre. Et que ce sale cabot de malheur s'avisa de toucher au linge, aux chaussures ou aux vêtements. Qu'il s'avisa de courir après les poules et de coucouter les œufs. Le manche à balai était là. Peut-être, et le fouet aussi. Et son homme n'aurait rien à dire là contre. C'était du dressage, quoi. On ne peut pas se laisser dévorer par une bête. Et au besoin, elle jouerait au braconnier de bons tours, dont elle accuserait le chien, lesquels elle ne savait pas encore. Mais elle trouverait certainement. Ah, il faudrait bien qu'elle obtînt l'avantage, enfin, et qu'il disparût l'intrus qui s'était introduit à la faveur d'une soûlerie. Lisée n'aimait pas les scènes. Il en entendrait des plaintes, et elle te lui en servirait des lamentations de Jérémie, comme il disait. Et plus qu'à son sou, mon bonhomme, espère. Il aimait à être propre. Il en aurait du poil de chien sur ses habits, et il chercherait les brosses. Et s'il y avait d'aventure du linge de ronger à la maison, ce serait ses mouchoirs à lui, et ses pantalons, et son fourbi. Et il irait se faire raccommoder ça où il voudrait. Chez le cher ami qui lui avait déniché son animal. Ah, on verrait bien qui est-ce qui se fatiguerait le premier de la viosse. Et qui sait qui parlerait le plus tôt de la ramener à ce grand ivrogne de Pépé ou à ce propre Arien de gros de Roquefontaine.